savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré.
Bonjour et bienvenue dans Tous les cinémas du monde, une émission consacrée cette semaine au cinéaste mauritanien Med Ondo, disparu en mars 2019. Med Ondo, connu du grand public pour sa voix, lui qui doublait en français Eddie Murphy, Danny Glover, j'en passe, hein, et même l'âne de Shrek, mais que les cinéphiles du monde entier ont eu l'occasion de redécouvrir, voici 2 ans, à l'occasion de la restauration de Soleil Haut, son premier long métrage tourné à la fin des années 60. Med Ondo avait décidé en 2015 de déposer à Cinéarchive, la cinémathèque du Parti communiste français, l'ensemble de sa filmographie et de ses archives papier. C'est donc grâce à son responsable, Maxime Grimbert, que je salue chaleureusement, qui a orchestré la restauration de son œuvre, que nous avons pu faire cette émission. Alors, le parcours de Med Ondo, il était né en 1936 dans une famille d'esclaves affranchis en Mauritanie, à la frontière, comme il le disait, de l'Afrique noire et de l'Afrique blanche. Son parcours est indissociable de l'histoire mouvementée du cinéma africain. Après les indépendances, donner une voix à ceux qui se battent, à ceux qui résistent, du héros du fiévreux Soleil Haut, à la reine Sarah Ounia, c'est ainsi que Med Ondo concevait le cinéma, son cinéma. C'est ce qui cimente cette œuvre d'un appétit pantagruélique où le rire cohabite presque toujours avec la colère, où la verve burlesque se confronte à la rage militante avec des mises en scène flamboyantes, heurtées, chaotiques et un goût presque godardien du mariage des contraires dont nous aurons amplement l'occasion de parler dans cette émission avec nos deux invités. Catherine Ruel, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Les auditeurs de RFI vous connaissent bien, vous avez été sur cette antenne la grande prêtresse du cinéma pendant plusieurs décennies. Vous m'avez susurré quand on préparait cette émission que vous avez connu Med Ondo au JCC, Journée Cinématographique de Carthage en 1974 et on aura l'occasion d'en reparler. Et François Catonnet, bonjour.
Bonjour.
Collaborateur de Med Ondo sur plusieurs films, dont les notables Soleil Haut, West Indies, Les Biconègres, vos voisins. Vous avez aussi été son ami. Alors Med Ondo, il a fait des films brûlots, des films de protestation, dont les cris et les slogans résonnent puissamment avec l'actualité mondiale de ce mois de juin 2020, de Minneapolis aux manifestations en France contre le racisme de la police. Mais avant de revenir sur cette œuvre si diverse, si riche, et pourtant portée par la même indignation, je vous propose d'écouter Med Ondo, c'était sur RFI en 1980.
J'ai choisi de faire des images par obligation et par nécessité. Je suis un émigré. Je suis venu dans ce pays en tant que travailleur manuel. J'ai fait beaucoup de métiers. Et j'ai été amené par la force des choses à aller au théâtre, à aller au cinéma, à voir la télévision. Et il est très simple de constater et de dire que dans ces cinémas, dans ces films, dans ces émissions de télévision, l'homme que je suis était absent. Quand je dis « je veux dire « nous ». Je veux dire d'abord des Mauritaniens, ensuite je veux dire des Africains, et troisièmement, je veux dire les hommes du tiers-monde.
Voilà, Med Ondo en 80 sur RFI. Quand je dis « je veux dire « nous ». Catherine Ruel, ça pourrait presque être le fil conducteur de toute son œuvre, non ?
Oui, absolument, parce qu'en fait... D'ailleurs, c'est comme ça que ces films sont découpés. Je pense que François, qui en plus a fait l'image de beaucoup de films, pour en parler aussi. Med a toujours parlé aussi, pas seulement pour lui, il a parlé pour tous les gens avec lesquels il était. Et tous ces films transmettent, en fait, cette révolte qu'il concrétise à travers des personnages, mais toujours des communautés, toujours des personnages multiples, toujours des histoires chorales. Il y a rarement de héros solitaires dans ces films. En fait, je crois même qu'il n'y en a pas. Même la Sarah Ounia, c'est un collectif. Donc effectivement, oui, c'est un homme qui a parlé, qui avait besoin de sortir de ses tripes tout ce qu'il avait vécu aussi dans son enfance, dans son adolescence, dans son rapport aux Français, et puis de faire du cinéma. Et d'ailleurs, c'est un des cris, on y reviendra, qu'il y a au début d'y connaître, de faire que le cinéma soit autre chose que simplement un endormissement. Et ça, c'était le grand truc à l'époque, dans les années 70, les cinéastes africains se battaient beaucoup pour ça, pour cette école du soir aussi dont parlait Sam Ben Ousmane.
L'idée, effectivement, que le cinéma doit être quelque chose qui apprend, qui éveille les consciences et non pas l'opium du peuple. Alors, on aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir dans l'émission. Mais pour commencer, je voudrais qu'on écoute un extrait d'un film qui a fait souffler les braises révolutionnaires sur le cinéma des années 60, Soleil haut, bien sûr, hein, qu'il tourne sans un sou. Un film qui montre, comme aucun autre à l'époque, les conditions de vie misérables des immigrés en France. Donner des voix, montrer des corps et lancer ce mot chargé de dynamite.
Invasion noire. Le mot a été lancé sans méchanceté, mais peut-être déjà avec un soupçon d'inquiétude. Il s'adressait surtout à cette coloration nouvelle qui déambule le long du boule-miche ou qui s'attarde aux terrasses du boulevard Saint-Germain. Ils étaient quelques dizaines en 1946, quelques centaines en 1948, plus de 15 000 en 1964, 300 000 en 1967. Combien sont-ils aujourd'hui?
Dis donc, t'as vu? Il y en a de plus en plus.
Ouais.
Qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici? Ils ont voulu leur indépendance, et bien ils l'ont. Donc ils restaient chez eux.
Et en plus, on leur file du pognon.
Ouais.
On les entretient. Tu te rends compte? Faut quand même pas pousser le bouchon trop loin.
Ah non.
Oh, dans l'arc, d'accord, ils viennent faire des travaux difficiles, des trucs qu'on veut pas faire, nous. Ben, on a qu'à inventer des machines pour faire ces boulots-là.
Bien sûr.
C'est pas compliqué, non?
Un petit aperçu du racisme ordinaire de bistrot dans la France des années 70, hein, c'est Soleil haut. Premier long métrage de Médondo avec son complice, hein, Robert Liensol, hein, qui joue le rôle principal du film. Le film va obtenir d'ailleurs le Léopard d'or au festival de Locarno. Alors, François Cattonnet, vous êtes le chef opérateur du film. À Guy Hennebelle, hein, au grand critique de cinéma Guy Hennebelle, hein, il dira « J'ai voulu vomir des choses que j'avais sur le cœur. J'ai écrit ce scénario pour me libérer. » Et effectivement, en préparant cette émission avec vous, vous m'avez dit que ce film était vraiment très inspiré de ce qu'il avait connu lors de son arrivée en France.
Oui, Med, quand je l'ai interrogé sur son enfance, je me suis aperçu que il était révolté et en colère dès le plus jeune âge et que ça n'a fait que s'amplifier quand il a été confronté à la vie qu'on faisait mener aux immigrés une fois qu'il est arrivé en France. Ça m'amuse d'écouter l'extrait, si je puis dire, que vous venez de passer, parce que le premier raciste, je reconnais ma voix, je ne me souvenais même plus que j'avais joué un raciste. Et moi, je venais de finir mes études de cinéma et j'avais beau avoir une conscience politique et être révolté par le racisme, je ne l'avais jamais vu et subi comme je l'ai aperçu quand on a tourné le film avec Med. Et si vous vous souvenez, dans Soleil haut, il y a une scène improvisée où on avait Robert Liensol, l'acteur, donc le héros du film, tenait dans ses bras une très grande et sculpturale blonde, et il s'enlaçait, il montrait l'affection qu'ils avaient l'un pour l'autre, ou au moins le désir qu'ils avaient l'un pour l'autre. Et nous, on filmait principalement les réactions des gens sur le bas des Champs-Élysées, et ce qu'on filmait était hallucinant, des grimaces, des gens qui faisaient le tour en faisant des réactions hostiles, quoi. C'était, et moi je découvrais ça, d'un seul coup je le vivais dans ma chair alors que j'étais blanc, mais je le vivais avec presque la même colère et la même révolte que Med pendant qu'on filmait, quoi.
Et ce qui frappe dans le film, c'est son absolue modernité. C'est ça, je le disais tout à l'heure. Effectivement, Catherine Ruel, aujourd'hui, c'est un film qui a une résonance extraordinaire avec le mouvement Black Lives Matter, hein, les vies noires comptent, avec ce mouvement contre le racisme, hein, dans la police aux États-Unis après l'assassinat de George Floyd, mais aussi en France et ailleurs. En Europe, il y a ce carton incroyable dans le film. La droite est antipathique, la gauche si peu révolutionnaire. J'en ai marre des blancs. Ce sont les mots de Madondo.
Comme dit un des personnages du film, cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. C'est ce qui est très étonnant en revoyant le film aujourd'hui, c'est qu'il est très moderne sur deux plans. D'une part, sur le plan, effectivement, comme vous dites, Elisabeth, du propos du film. Parce que malheureusement, quand on regarde Soleil haut de nouveau, quand on voit l'accueil, en fait, qui est fait aujourd'hui encore aux gens, alors là, c'est plus les émigrés, c'est les deuxième, troisième génération, les gamins des quartiers, la façon dont la société, je parle pas seulement de la police, hein, la police n'est qu'un reflet de la société, mais la façon dont la société traite les Africains ou les Arabes, entre guillemets, dans le monde d'aujourd'hui en France. C'est ça, c'est ce que vous venez de dire, c'est ce que François racontait de cette scène sur les Champs-Élysées. Il y a toujours les mêmes regards. Et ça, c'est quand même complètement fou. Parce que ça veut dire que depuis 1969, le monde, en tout cas chez nous, n'a pas changé. Alors qu'à un moment donné, on avait l'impression, et Med aussi, qu'on allait partir vers une société beaucoup plus forte et beaucoup plus égalitaire. Et le deuxième point, c'est le point de la modernité du langage cinématographique. Le début du film, parce que Med utilise beaucoup de techniques dans ses films, notamment l'animation, le documentaire, dont François a parlé un peu la façon dont les films sont faits, mais aussi, en dehors de l'animation, il y a des séquences filmées, évidemment des séquences jouées, un peu comme au théâtre, puisqu'il a une grande expérience au théâtre. Et la première séquence du film, qui est une animation entre deux blancs coiffés d'un casque colonial, qui encercle un, entre guillemets, roi noir, et ce rire énorme, immense, hystérique, qui sort de la bouche de cet homme, ce qu'un peintre comme l'haïtien Hervé Télémaque appelle le grand rire nègre, le grand rire libérateur, c'est quelque chose qui marque ce cri, en fait, qui va être pris tout au long de ses œuvres, ce cri du monde noir qui demande à être vu, à exister. Et ça, c'est dans la façon de faire le film, ça va revenir plusieurs fois dans ses films, cette espèce de cri libérateur à la fois et en même temps de colère et en même temps de pouvoir exister à travers la voix. Alors on en reparlera parce que sur la voix, sur le travail du son, etc., il y a beaucoup de choses à dire. Oumed a pu puiser dans son expérience de théâtre et de doublage beaucoup, beaucoup de choses pour construire des films complètement autrement avec une bande-son parfaitement travaillée. Mais ça, je pense qu'on y reviendra. Mais ça, ça me marque. Et la deuxième image, la deuxième séquence du film, c'est quand même le curé qui vient coloniser l'Afrique et qui baptise les gens en changeant leur nom. Et on les retrouve, en fait, avec dans une séquence très belle où ils sont habillés en robe de bure et où tout d'un coup, la croix qu'ils tiennent, ils la retournent, ça se transforme en épée. Donc le symbole est tellement clair et évident. C'est d'une limpidité et d'une beauté absolue.
Le sabre et le goupillon. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Catherine Ruel, parce que il a effectivement une espèce de multiplicité de styles. On passe du style expressionniste à des espèces de slapstick presque burlesque, hein, par moment on dirait du Charlot revisité par Marx et Fanon, un goût de la caricature très avéré, hein, parfois les visages, enfin je pense à la façon dont il filme les visages des colonisateurs, on dirait presque du Daumier, et en même temps il a ce talent pour la saisie du réel, hein, la dimension documentaire.
Alors il y a les deux choses, effectivement, vous avez raison Elisabeth. Le côté, en fait, dramatique, le côté saisir les visages, les paysages qui sont dans les visages, je pense que ça lui vient vraiment du théâtre. Ça vient beaucoup de son expérience aussi par la mise en scène radiophonique, parce que du coup, il n'avait que la voix, mais la voix, c'est des images. Hein. Donc, l'expression de Med passe par l'image de façon très forte. Alors, évidemment, il va le dire dans Biconègre, la caméra, la technique n'a pas été inventée par les Africains, mais quelque part du côté de Dakar, les criots disent que le mot est image. Et Med, c'est ça. Tous ces mots et toutes ces images ne sont absolument jamais redondants, se répondent l'un à l'autre avec une force visuelle absolument incroyable. Donc, effectivement, pourtant, il a dit lui-même, il a appris à faire de la caméra, paraît-il, pendant 7 mois. François, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, juste avant de faire son premier court-métrage, et il trouvait que c'était facile. Alors, je ne sais pas si vous en avez parlé avec lui.
Non, je connaissais pas l'expérience des courts-métrages. Il m'a parlé un petit peu de son approche du cinéma quand je l'ai interrogé sur tout son trajet. Et il me racontait que tous les films qu'il faisait, à chaque fois qu'il travaillait sur un plateau, il posait des questions à tout le monde, aux ingénieurs du son, à l'opérateur, etc. Et il essayait de s'éduquer petit à petit. Mais au fond, quand j'ai travaillé avec lui, c'était donc en 69, on pouvait dire que c'était la première fois qu'il tournait ses courts-métrages, il les revendiquait pas, je crois. Et c'était le patron, quoi. Il savait exactement où il voulait aller, ce qu'il voulait faire et comment il voulait filmer. Il faut dire que moi, j'étais débutant, donc j'étais aussi très attentif à ce qu'il disait, mais j'étais très étonné par la sûreté qu'il avait de ce qu'il voulait dire et de comment il voulait le dire.
Je m'appelle Sidna. Je suis venu en France en 1962. J'ai d'abord commencé à faire des travaux de nettoyage, à travailler comme balayeur. Et puis j'ai cherché un autre emploi. J'ai été engagé comme magasinier par l'Alsacienne. En même temps, j'essayais de trouver un meilleur travail. Je suis allé chez Renault à Flins, où j'ai été engagé en 1966.
Ces pays lointains où l'on meurt de misère et de faim, des enfants du Biafra et des petits indiens à deux pas de chez moi, allez voir mes voisins.
Un extrait des Biconègres, vos voisins, donc 74, 4 ans après Soleil Haut. Alors j'ai choisi, François Cattonnet, un extrait qui n'est pas très représentatif hein, de ce film, qui joue plutôt sur le monologue fiévreux, la fable grinçante. Mais je trouve que là aussi, il a ce talent extraordinaire pour capter le réel. Hein. Il aurait pu être un immense documentariste. Et c'est incroyable parce qu'il va filmer, filmer les immigrés dans des foyers que personne ne filmait à l'époque. Hein. Je crois qu'il y avait eu des morts d'ailleurs dans un incendie à Aubervilliers, dans l'indifférence générale des médias.
Oui, on avait été filmé dans un foyer. Je ne sais pas s'il appartenait à la Sonacotra. C'était ça le nom des foyers d'immigrés. Je suis plus sûr d'un seul coup du nom. Et c'était des endroits où on n'allait jamais filmer, où personne n'allait jamais filmer. Et on avait été interroger les gens qui vivaient là sur leur vie, sur leurs conditions de logement, sur leurs conditions de travail, sur leurs revendications. Et effectivement, le travail que Med avait envie de faire au cinéma pour parler de lui, de l'Afrique et des immigrés, l'incitait à faire du reportage et du documentaire.
Moi, ce qui me touche aussi énormément dans cet extrait, c'est Catherine Ruel, son attention incroyable, faire entendre la langue. C'est-à-dire, la traduction, elle arrive très très tard et elle nous permet quand même d'entendre cette langue originale sans la massacrer par un doublage. Plus tard, dans West Indies, hein, il aura cette espèce d'amour des sonorités du créole. Et effectivement, c'est difficile de ne pas rattacher ça à son expérience théâtrale.
Alors en même temps, Elisabeth, dans l'extrait que vous avez choisi, c'est très intéressant. Parce qu'effectivement, cet ouvrier immigré donc, qui est venu travailler chez Renault ou je ne sais pas quoi. Et puis en même temps, il y a la chanson qui est quand même chantée par une grande chanteuse de l'époque française. Et Med n'était pas du tout un communautariste ou un racialisé dans le sens dont on pourrait parler aujourd'hui. D'ailleurs, dans Soleilio, il y a une scène très belle, et je reparlerai après, je répondrai à votre question. Une scène très belle, et il répond à une question de Guyenne Bell là-dessus, qui lui dit « Parmi les Africains noirs de votre film, il y a toujours un blanc », ce qui est vrai aussi dans Biconègre. Il dit « Pour moi, il y a des nègres blancs et des blancs nègres. La couleur de peau n'est pas fondamentale. » D'ailleurs, dans un des épisodes de Soleilio, il y a un couple, deux blancs qui croisent un couple mixte, qui viennent de croiser dans un escalier. L'un est complètement raciste et l'autre blanc lui répond « Mais moi, je suis nègre. » Et pour l'anecdote, il s'agit effectivement dans le film d'un Antillais dont le père est noir et la mère blanche et lui est tout à fait blanc. Donc il a aussi introduit cette notion-là dans ses films qui me semble extrêmement importante. En dehors du fait que, bon, c'est quelque chose qu'il aurait pu se mettre effectivement à haïr les Blancs, comme le dit un autre personnage blanc, d'ailleurs, du film.
Joué par Bernard Fresson.
Voilà, Bernard Fresson, dans Soleilio, par contre. Mais du coup, il y a cette espèce de force fondamentale derrière sa tête aussi, que c'est pas, il parle pas seulement aux Africains spoliés, il parle à tout le monde, quoi, en fait. Il y a aussi cette accentuation de la façon de raconter l'histoire pour tout le monde, pas seulement pour les Africains d'abord, parce qu'ils sont spoliés de tout, et le début de Biconègre, avec cette grande diatribe, ce monologue de Bachir Touré sur la naissance du cinéma, montre bien ça aussi, naissance du cinéma, qui est une exploitation supplémentaire, en fait, dans la tête de Med, de l'exploitation qui a été faite par la colonisation, l'esclavage, la guerre coloniale, etc., etc. Mais il y a ça aussi pour mettre, j'allais dire, le point sur quelque chose que tout le monde peut comprendre et partager. Et pour lui, je pense que c'est extrêmement important. Il dit toujours, je suis africain, mais la France était aussi ma patrie. Et d'ailleurs, le personnage de Liançol dans Soleil Haut clame vraiment qu'il est français. Il y a tout ça aussi qui est très compliqué. Alors, effectivement, il a un art incroyable pour quelqu'un qui n'a pas fait de cinéma, mais il a, comme vous dites, cet art du théâtre et je pense de la, du théâtre radiophonique, parce que du coup là, tout est important, le son, le mot, il n'y a pas d'image, hein, donc on est obligé de jouer avec les dialogues, avec les sons, les sonorités, etc. Et il fait ça à chaque fois. Et dans ce film, d'ailleurs, ce qui est marrant, la séquence dont parlait François, c'est effectivement la Sonacotra. Et dans le film, on voit quelqu'un qui allait devenir cinéaste aussi après, qui s'appelle Sidi Sokhona, qui est un jeune Mauritanien qui, à l'époque, était un des leaders de ces mouvements dans les foyers de rébellion des travailleurs immigrés, de révolte dans les foyers Sonacotra, et qui plus tard va faire un film qui s'appelle Nationalité immigrée, et pour lequel j'ai produit son deuxième film qui s'appelait Safrana ou le droit à la parole. Le droit à la parole, voilà. C'est quelque chose qui revient tout le temps dans l'œuvre de Med. Et je pense que c'est, les extraits que vous avez choisis, en fait, sont très intéressants à cause de ça.
Le droit à la parole et puis aussi le droit à l'humour, hein, parce qu'on parle toujours du côté militant de Med Hondo, forcément. Mais il y a aussi beaucoup d'humour, beaucoup de fantaisie, je trouve, entre autres dans Les Biconègres, vos voisins. Et alors, il paraît, François Cattonnet, qu'il avait même eu l'idée de montrer les hauts lieux touristiques de Paris, alors la Tour Eiffel, la Place de la Concorde, le Panthéon, envahis par des Noirs, et de louer, alors évidemment, il n'avait pas pu le faire pour des questions de budget, mais louer des dizaines de bus pour transporter tous ces figurants, justement, sur les lieux touristiques. Et du coup, c'est vous qui l'avez si bien connu, c'était quel genre d'homme? C'était quelqu'un qui avait énormément d'humour. On en a l'impression, en tout cas, en voyant ses films.
C'est un homme qui pratiquait l'humour, mais qui était aussi d'une très grande rigueur. Et je ris parce que tout au long de notre vie, on a passé notre temps à de temps en temps se fâcher, puis se réconcilier, puis se fâcher, puis se réconcilier. Deux fois, il y a eu des interruptions dans notre lien et notre amitié. Et un jour, de ce coup, je recevais un coup de fil pour me dire « Ah, on va faire ça », alors que « Ah, j'avais oublié qu'on était fâchés, quoi ». C'était très amusant. Non, il était très ambivalent et c'était aussi quand même ce qui dominait chez lui, c'était la colère et la révolte qui soutenait tout son cinéma et aussi sa rigueur, son exigence qui était extraordinaire, quoi. Et il exigeait autant des autres qu'il exigeait de lui-même, hein. C'était compliqué de travailler avec lui des fois. Mais bon, à part les ruptures, les deux fois où notre amitié s'était arrêtée, c'était un compagnon extraordinaire. Je l'ai aimé comme un frère.
C'était quelle ambiance, les plateaux de Med Hondo? C'est très discipliné.
Très discipliné, absolument. Oui, absolument. On ne rigolait pas du tout. Non, c'était les plateaux parmi les plus sérieux que j'ai vus. Non, je redis, il savait, il était d'autant plus exigeant qu'il savait exactement où il voulait aller, ce qu'il voulait dire et comment il voulait le filmer.
Il y a tant de bouches à remplir, de corps à couvrir, de cervelles à polir, tant et tant que la solution est l'exportation. Pardon, l'immigration. Ou bien la fermeture des robinets fécondateurs.
Le pape dit à ce propos que seul Dieu est le plombier qualifié dans cette affaire de robinet.
Papa dit, je sais. Les impératifs politiques crèvent les bulles des papes.
La solution est donc liberté des naissances, plus émigration.
Égal travail, famille, patrie.
West Indies ou les nègres marrons de la liberté en 79, c'est une adaptation des Négriers de Daniel Boukman, un auteur martiniquais, donc un film qui parle de l'immigration en partant de la traite négrière au XVIIIe siècle. D'ailleurs, tout le film se passe sur un énorme bateau posé dans un hangar et qui est bien sûr un bateau négrier. Alors, casting prestigieux, hein, où on retrouve Toto Bissinthe, Gabriel Glisson, Roland Bertin, Robert Liançol, bien sûr, le fidèle Robert Liançol, et puis on vient de l'entendre, hein, la voix d'Hélène Vincent. Alors, dans cet extrait, ce n'est plus l'alliance du sable et du goupillon, hein, dont vous parliez tout à l'heure, Catherine Ruel, mais c'est l'alliance du capital et du goupillon.
Alors là, c'est quand même, là l'extrait est très particulier, vous avez pris en plein milieu du film. L'extrait parle de quelque chose que tous les Antillais de France connaissent bien, parce que c'est pas vraiment l'immigration dont il parle, c'est l'immigration antillaise forcée par le bureau qui s'appelait le Bumidom, qui dans les années 50-60 a apporté, en fait, a fait immigrer de force de nombreux Antillais en France. C'est le début de l'immigration forcée antillaise, parce que le film raconte deux... Alors, c'est très compliqué, ce film, hein, parce que d'abord, comme vous l'avez
c'est
dit,
très riche.
C'est très riche. Il y a un bateau, et on voit bien que c'est un bateau dans une usine, qui est une ancienne usine Citroën, donc le lien avec le monde du travail est évident. Il joue effectivement avec ce décor qui est dans un décor, déjà, industriel. Il joue avec les niveaux du bateau, puisque dans la cale, évidemment, il y a les nègres marrons. Les nègres marrons sont tous ceux qui se sont révoltés, hein, que ce soit dans les Antilles, ou que ce soit au Brésil, ou que ce soit dans les, d'autres pays de l'Amérique latine, contre l'oppression blanche, et qui sont partis dans les mornes, etc. Donc ça, c'est les nègres marrons qui sont à fond de cale et qui sont toujours assis en train de jouer du tam-tam et de très en colère, et voilà, parlant créole, évidemment. Et puis les différents étages du bateau sont investis par les différentes couches de la population. Plus on monte, plus on va vers le blanc. Donc plus on monte, plus on va vers les planteurs, les grands planteurs, les béquets, les colons, la force de l'église, l'autobicinte en religieux, ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Jenny Alphin, qui joue une institutrice prônée par la République française et mise en valeur, etc. Et puis le prêtre catholique qu'on a entendu, puisqu'à un moment donné dans le film, c'est l'extrait que vous avez pris, il est question de castrer les nègres, comme ils disent, puisqu'à l'époque il y avait trop d'enfants en Martinique Guadeloupe et que donc la République ne pouvait plus les nourrir. Donc il fallait en faire quelque chose d'autre. Après les avoir importés d'Afrique, il fallait les exporter. Donc ça montre aussi comment les Français, enfin les Européens, puisque dedans il est question aussi de la colonisation anglaise, espagnole, etc. sur les Antilles, comment les Européens voyaient l'homme et la femme africaine comme des marchandises. C'est ça la traite négrière.
Et il filme
c'est très impressionnant ce film à cause de ça, parce qu'il est capable de nous remonter 4 siècles d'histoire, il commence quand même en 1600 et quelques, 4 siècles d'histoire jusqu'à la date où le film a été fait, donc 1979, en racontant toute cette histoire des nègres marrons et de leur choix de la liberté. Parce qu'il y a aussi l'autonomie dedans, qui était voulue à un moment donné par les indépendantistes guadeloupéens. Enfin, il y a tous les sujets qui ont agité les Antilles. Et c'est insensé de la part de Mendonça ce qu'il arrive à faire au niveau politique et au niveau historique. La connaissance qu'il a, à la fois bon, quand il fait Soleilio ou Biconnex sur l'immigration africaine, et là tout d'un coup de repartir dans l'histoire avec une précision absolue. Et je confirme ce que disait François, c'était pas un homme facile non plus, hein. Il était quand même, comme il savait effectivement absolument ce qu'il voulait faire, il était quand même assez autoritaire sur ses plateaux. Et en plus, il se fâchait souvent, effectivement. Moi aussi, je me suis fâchée plusieurs fois avec lui. Et la dernière fois que je l'ai retrouvé, c'était justement, alors parce qu'il était aussi reconnu comme un cinéaste important par les autres diasporas. Et donc, c'était au Brésil, à Bahia. On s'est retrouvé en 2009. D'ailleurs, il a eu un malaise parce qu'on descendait les rues de Bahia. C'est très pentu. Et en remontant de la mer, il s'est arrêté, il a eu un malaise, genre malaise cardiaque, quoi. J'ai complètement paniqué. Et on a été obligé de revenir à l'hôtel en voiture, je fais du stop et tout. Et on arrive à l'hôtel pour apprendre que notre ami Félix Sambadia, qui devait nous rejoindre, venait de décéder. Donc je ne vous dis pas les circonstances de cette étrange dernière rencontre, mais qui va bien avec l'image de Mendonça, de ses films, de ce qu'il faisait, de l'énergie qu'il déployait aussi, à transmettre, 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 transmettre.
Et ce film, qui est absolument, comme vous le disiez, un film monde, hein, Catherine Ruel, hein, à l'image de ce bateau, puisqu'il y est question de un peu de toutes les étapes du néocolonialisme, des élections pipées, de l'immigration contrôlée, des mesures qui se mettent en place dans les pays d'accueil pour contrôler cette immigration, hein, puisque on a fait venir en masse les immigrés dans l'après-guerre, et puis il filme aussi ce moment où les immigrés ne sont plus les bienvenus en France. Donc il y a cette idée toujours chez Mendonça, hein, que c'est une volonté politique de vider l'Afrique et les Antilles de leur force se vivent. Et du coup, ça aboutit à ce film monde, ce film inclassable qui est à la fois une comédie musicale, qui joue sur le genre de la fable, du brûlot politique et historique, hein, vous l'avez dit, Catherine, qui est aussi un film pédagogique, mais où on sent toujours l'envie du grand spectacle, c'est-à-dire l'envie de toucher le grand public. Je me trompe ou pas, Catherine Ruel?
Ah non, pas du tout, mais Med ne faisait pas un cinéma pour les initiés, hein. Son ambition, ça a toujours été, mais malheureusement sans moyens, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais depuis le début, Soleilio, il a quand même plus d'un an à le tourner, François doit le savoir évidemment, puisqu'il tournait quand il trouvait un petit peu d'argent, il s'était débrouillé pour ne pas payer le laboratoire, il payait pas les gens, je pense, hein, François,
on répondrait ensuite.
Voilà, donc il s'est toujours débrouillé pour faire des films où il n'avait jamais assez d'argent. Et comme les sujets, effectivement, étaient corrosifs, parce que quand vous parlez la façon dont il évoque le pouvoir, c'est pas les blancs, c'est le pouvoir, hein, dans ses films, c'est toujours des scènes très jouées, on les retrouve dans tous ses films, hein, depuis Soleil, où des blancs, en fait, sont en train de faire la mise en coupe réglée de l'Afrique ou des Antilles, avec un plan à long terme, ça serait du, comme on dit, du conspirationnisme, mais sauf que c'est la réalité, et avec des phrases qu'il a dû prendre dans les journaux, enfin, je sais pas, c'est tellement juste que c'est hallucinant, qu'on peut vivre jusqu'à maintenant, hein. Mais effectivement, il voulait que ces films vivent. Et le problème, c'est que s'il a été très très reconnu dans les grands festivals européens ou africains, malheureusement, les sorties de ces films ont toujours été très confidentielles parce qu'il n'avait pas non plus l'argent. Il avait aussi monté sa propre maison de distribution. Il distribuait d'ailleurs les films de Saint-Ben et de plein d'autres. Mais il n'avait pas non plus l'argent pour aller au niveau des grands distributeurs ou producteurs français et américains. Donc ça, c'était quand même un peu un crève-cœur pour lui parce qu'il avait vraiment envie que ce qu'il racontait passe pour le plus grand nombre. Il faisait pas du cinéma pour lui-même. Hein. C'est pas un intellectuel tourné vers son nombril. C'est vraiment, comme vous le disiez au début aussi, comme on le disait, quelqu'un qui partage, qui parle pas de son histoire pour lui-même. Il parle pour les autres, pour ceux qui n'ont pas de voix.
François Cattonet, ça le frustrait beaucoup, Mendondo, que ses films ne rencontrent pas la reconnaissance publique espérée.
Ah bah bien sûr, parce que déjà ça commençait quand il avait envie de faire un film pour arriver à le monter financièrement, c'était une bagarre, toute sa vie a été une bagarre pour arriver à faire ses films. Mais quand on voit Soleil-O et comment ce qu'il y a dedans, bon la forme est un peu celle d'un film coûte que coûte, mais on voit déjà son envie de spectacle. Et quand il a fait son deuxième film, son deuxième vrai film, qui est West Indies, on voit qu'il voulait que tout ce qu'il avait à dire passe par un spectacle, et non pas par un discours militant. Il voulait que la forme soit spectaculaire. Quand il a fait Saraounia, c'était aussi dans la même veine, avec l'idée qu'il devait faire un spectacle qui devait être capable de séduire tout public, et non pas un public seulement d'initiés ou de convaincus.
Et il y avait aussi, pour encore rebondir sur ce que disait François, il y a l'utilisation de la musique dans ces films qui est très particulière et très forte. Quand c'est George Anderson, qui à l'époque était quand même assez connu, dans Soleil-O ou dans Les Biconnaires, et surtout West Indies, c'est une comédie musicale quand même, avec les morceaux de musique très connus, avec des morceaux très très chantés, très connus, et d'utiliser les danses, parce qu'il y a des scènes de danse absolument phénoménales, avec des superbes chorégraphies. Donc ça aussi, c'était... S'essayer à la comédie musicale, c'est pas rien. La comédie musicale, c'est aussi rentrer dans un espèce de monde fermé, puisque normalement, c'est quand même les Américains les maîtres de la comédie musicale. Donc aller taper là-dessus, comme a fait d'ailleurs aussi à peu près à la même époque Eusanne Palsy, qui faisait Siméon, qui était aussi un film musical, c'était aussi un mouvement pour aller vers le plus grand public, pour ramener vers son propos le plus grand nombre de gens qui pouvaient être sensibles à la musique et à la danse, plus qu'à la militantisme politique.
François Cattonet, vous parliez tout à l'heure de ses difficultés à financer ses films. Qu'est-ce qui l'avait conduit à, du coup, créer sa compagnie, les films Soleil-O ?
Je ne sais pas, parce que je n'ai jamais été associé d'une manière ou d'une autre à sa production, sauf pour Soleil-O, où j'amenais ma force de travail gratuitement. Mais après ça, je ne suivais pas. Je veux dire, quand la phase production, on l'oublie un peu quand on tourne. Hein. Donc, je suppose et je sais aussi que s'il avait monté sa maison de production, c'est parce que c'était le moyen le plus... qui pouvait lui donner le plus de chances d'arriver à monter ses films.
Il ne faut pas oublier non plus qu'il finançait en fait en grande partie son travail cinématographique par le doublage. C'est beaucoup de choses qui étaient autoproduites parce qu'il n'avait pas fait d'école de cinéma. Donc il a eu, pour Soleil-O par exemple, il a eu une dérogation, parce qu'à l'époque il y avait des cartes pour les cinéastes, il a eu une dérogation pour être cinéaste en fait, parce qu'il avait fait des pièces de théâtre et de courts-métrages. Bon, mais il n'était pas reconnu forcément par le milieu. Donc, en plus, les sujets qu'il avait n'étaient pas des sujets qui pouvaient être aidés par le centre du cinéma ou par des producteurs privés, par les télévisions surtout pas. Donc, il fallait qu'il trouve un moyen de financer ses films. Donc, l'ouverture de cette boîte de production, les films Soleil-O, et puis de la boîte de distribution, MH Films, pour pouvoir distribuer ses films. Et il a été aidé une seule fois, je crois, pour Saraounia. Mais il finançait beaucoup par son propre travail, soit en tant qu'acteur de théâtre, puisqu'il a continué toute sa vie pratiquement à faire ou des dramatiques ou ou des pièces, et puis surtout par son travail de doubleur. Il ne faut pas oublier que c'est le plus grand doubleur du cinéma à cette époque-là.
Alors, on aura l'occasion d'en reparler, mais avant, je voudrais qu'on écoute François Catherine, un extrait de Sarah Unia.
C'est la fin du 19e siècle. À Berlin, les puissances occidentales s'étaient partagées l'Afrique. De toutes parts et partout, Français, Italiens, Anglais, Allemands, Portugais, Espagnols et Belges investissaient le continent africain.
L'extrait de Sarah Unia en 1986, une épopée magnifique hein, sur une figure de résistante, la reine sorcière Sarah Unia, qui à la fin du 19e siècle résista à l'avancée de la colonne voulé-chanoine au Niger. Alors, pour le dire vite, hein, la colonne voulé-chanoine, c'est un peu un exemple paroxystique de barbarie coloniale. Et donc, il y a toute une histoire, Catherine Ruel, autour de ce film qui, au départ, devait être tourné, bien évidemment, au Niger, mais au dernier moment, la télévision nigérienne qui coproduit le film annule sa participation. Et du coup, je crois que Madondo va voir Thomas Sankara à Ouagadougou, lui explique la situation et va finir par tourner au Burkina Faso.
Ouais, mais c'était pas étonnant à l'époque, parce qu'en fait, Sankara était celui qui poussait le plus de cinéma en Afrique. Hein. Il avait pris la main aussi sur le FESPACO depuis qu'il était ministre de l'Information. Il y avait un centre du cinéma dirigé par Gaston Caboret qui était très important, et beaucoup de cinéastes, y compris Souleymane Sissé, sont venus tourner avec les moyens du Burkina. Mais là, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, encore une fois, pourquoi est-ce que Diop a pu faire son film au Niger alors que c'est adapté de l'œuvre d'un grand écrivain nigérien, hein, ce film adapté d'un livre d'Abdoulaye Mamani? Parce que Seyni Kounché, le président du Niger, en fait, a refusé que le film soit tourné au Niger parce que c'est un film anticolonial. Et je suppose qu'à l'époque, la France-Afrique marchait à fond, et qu'il y avait quand même des pressions très fortes pour que des choses comme ça, comme d'ailleurs plus tard les tirailleurs, le camp de tirailleurs de Saint-Ben, ne soient pas tournés. On n'aimait pas avoir parlé de cette histoire coloniale. Donc effectivement, quand il a demandé à Sankara, évidemment, comme il le connaissait en plus, parce qu'il venait à tous les FESPACO, évidemment que Sankara a accepté tout de suite. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est ça, mais enfin bref, c'était la même année où il a eu le Grand Prix du coup au Burkina Faso, le Grand Prix du FESPACO. C'est la première fois aussi qu'il avait un Grand Prix à Ouaga, hein, qu'il avait un prix à Ouaga, alors qu'il l'avait obtenu pour Soleilou en 64, pour les Biconègres en 74 à Carthage. Donc voilà, la balance était faite. Et puis malheureusement, quelques mois plus tard, Sankara a été assassiné. Donc le jeu de cette histoire résonne terriblement en fait dans l'histoire moderne, puisque la Sarah Unia, qui était la résistance panafricaine, mais portée par une jeune femme, pouvait être comparable à celle de ce président, ce jeune président Sankara ou d'autres avant lui, hein, de tous ceux qu'il fait brûler, de tous ces idoles qu'il fait brûler d'ailleurs, à la fin de Soleil, qu'on voit dans un monde en flammes et où tous les gens sont assassinés, dont Nkrumah, Lumumba, etc., etc. Donc c'est une histoire à la fois ancienne et moderne dont il parle. C'est pour ça qu'il a eu beaucoup de problèmes pour que ce film sorte en Europe, alors que le film a eu le Grand Prix à Ouagadougou.
Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de problèmes sur le tournage, hein, où apparemment on venait dire aux acteurs que le cinéaste était communiste. Mais on voit très bien ce qui l'intéresse, hein, dans ce personnage de jeune femme, puisque effectivement, les historiens ont toujours présenté Sarah Unia comme une vieille sorcière, et que cet auteur nigérien, donc Abdoulaye Mamani, dont vous parliez, Catherine, et à sa suite, bien évidemment, Madondo, l'a décrit comme une femme jeune et belle, qui est doublée d'une redoutable guerrière amazone. Donc on est presque dans Black Panther. Et de cette Sarah Unia, il fait un symbole politique en lui prêtant effectivement ce discours panafricaniste dont vous parliez, Catherine. Mais moi, ce qui me passionne dans ce film, c'est que Sarah Unia est non seulement une force de résistance à la colonisation, mais c'est la façon dont elle est filmée, comme une sorte de Cléopâtre africaine. Et c'est impressionnant le soin qu'il a mis, alors que les historiens soient d'accord ou pas d'accord, hein, mais le soin qu'il a mis à reconstituer le luxe, la sophistication de ces civilisations, hein, dont on disait que c'était des civilisations primitives. Et il y a cette envie constante de la part de Madondo de raconter l'histoire du point de vue des Africains.
Oui, alors là, on est dans un cadre incroyable, parce que ne serait-ce que la ville de la Sarah Unia, avec ses, ville ocre en terre, montée très haut, magnifique, comme on peut voir au Mali, avec des gradins, avec des remparts, avec des gens partout. Il y a une façon de filmer très large, puisque l'image est toujours très large. Filmer la colonne aussi, vous les chanoines, avec tous les spahis et tous les esclaves noirs qu'ils ont ramassés sur leur passage de tous les pays d'Afrique, toujours dans les bois, dans ces couleurs vertes et ocre, dans ces grands paysages. Ça fait très western hollywoodien. Hein. Par contre, là, il a une forme magnifique, mais aussi, c'est pas seulement le propos, encore une fois, c'est aussi là trouver une forme qui lui permette l'adhésion du public. Et l'adhésion du public africain d'abord, parce que le film a été présenté d'abord à Ouaga, mais évidemment l'adhésion du public mondial, parce que c'est une histoire qu'il voulait absolument raconter. Et c'est vrai que cette femme, jeune et belle guerrière, rappelle les Amazones, mais elle a le pouvoir d'une Nkomo. Et c'est ce qu'on voit dans le film de Souleymane Cissé Figné, c'est ce fameux, le Nkomo, cette fameuse école, en fait, de spiritualité africaine, qui fait effectivement très très peur dans le film, à beaucoup de pays africains, puisqu'il croit profondément que cette femme a des pouvoirs absolument incroyables. D'ailleurs, le sous-titre du livre, c'est ça, hein, c'est Sarounia la magicienne, donc la reine magicienne. Mais vous avez raison, il y a une facture absolument étonnante, c'est sublime l'image. Et ça vient aussi. Alors là, du coup, il a développé quelque chose qui est peut-être le film le plus abouti, en fait, au niveau filmique. Parce que là, il n'y a plus de documentaire dedans, il n'y a plus de côté, il n'y a pas de sketch, il n'y a pas d'animation. Il y a encore des voix off, parce que ça, il ne peut pas s'en passer. Il a besoin de raconter aussi avec des voix off, que ce soit celle de son personnage ou la sienne. Mais là, il y a tout d'un coup une dimension épique. C'est un film totalement épique, comme les grands westerns, comme les grands péplums. C'est Voilier de Cléopâtre, par exemple. Effectivement, c'est ce genre de film. Et c'est un film qui va rester très fort, je pense, dans l'histoire, parce qu'il est magnifique.
Et Catherine, est-ce que vous étiez sur le tournage? Est-ce que vous aviez... Est-ce que c'était un... Parce que quand on voit ce film, on se dit qu'il a un énorme budget. Ça fait un peu rêver. Hein. Parce que, comme vous le disiez, il aime filmer les foules et ce n'est pas des figurants de pixels.
Non, mais c'est le film africain qui a coûté le plus cher, je crois. Il a coûté 1 million de... Je ne sais pas si c'est de francs ou d'euros. On était en francs encore à l'époque. Hein. C'était le film le plus cher, mais d'ailleurs, ça a causé sa perte, puisque ça a malheureusement causé la perte de sa société. Il n'a pas pu... voilà. Mais le Burkina a tout donné au niveau des figurants et tout. Tout est fourni par le Burkina. D'ailleurs, à la fin du film, il remercie toutes les instances burkinabées qui l'ont aidé. Je pense qu'il n'a pas dépensé beaucoup d'argent sur les figurants, alors qu'il y en a des centaines et des centaines. Mais par contre, effectivement, les caméras, les acteurs européens... faire travailler tout ce monde-là. Donc, je pense que dans sa colonne de tournage, il y avait à peu près la même chose que dans la colonne Vouillet-Chanoine, c'est-à-dire les vaches, les moutons, les chèvres, etc., qui devaient suivre le tournage. Non, j'étais pas, moi, sur ce tournage-là, parce que j'étais enceinte jusqu'aux yeux cette année-là. Donc, c'est Albéric de Gouville qui a suivi le film pour nous à l'époque sur Radio France Internationale. Mais c'était un énorme film, énorme, énorme. Je crois qu'on n'a jamais fait un film aussi énorme, en fait, en Afrique, et sans les effets spéciaux de Black Panther. S'il avait eu de l'argent pour les effets spéciaux, ça aurait été beaucoup plus fort que Black Panther.
Alors, l'horloge tourne, hein, et on ne peut pas faire une émission sur Madando sans dire que c'était un doubleur d'exception. Alors, je voudrais vous faire entendre cette archive extraordinaire, qui est une archive INA.
On dit que je suis la voix française d'Eddie Murphy.
I know it looks good, some of y'all like pork chop.
Je sais que ça semble bon et certains d'entre vous aiment les côtelettes de porc.
J'ai doublé dans beaucoup, beaucoup de films dont je ne peux pas me rappeler le nombre exact.
Toujours été très drôle, Bruce.
Shrek, il y a quelque chose sur elle que tu ne sais pas.
De mon temps, les enfants avaient pour habitude de passer du temps avec leur famille.
Ils mettent tout droit à vos vaisselles, résultat difficile à voir.
Alors, est-ce que c'est vrai, Catherine Ruel, que Madando finançait ses films avec l'argent de ses doublages?
Oui, bien sûr, c'est ce que je vous induisais tout à l'heure. Il avait besoin de continuer à doubler, et bon, en plus, les salaires n'étaient pas inintéressants, hein, pour pouvoir faire ses films, c'est sa liberté. En plus, il adorait ça, doubler, ça le faisait marrer. Mais en plus, il changeait de voix à chaque fois. Je ne sais pas si vous avez entendu dans l'extrait, c'est toujours sa voix, mais il y a tellement de différences, de tonalités, de façon de parler, une fois gouailleur, une fois pas. Il avait une voix extraordinaire, une voix élastique, chaude, charmeuse, rieuse. Et voilà, c'était son grand avantage. Et ça n'empêchait pas que... Alors, il y a beaucoup de gens qui nous reprochaient d'avoir doublé les films américains ou d'autres films sud-africains, etc. Mais bon, l'argent n'était pas pour lui. Encore une fois, l'argent était pour investir immédiatement dans ses films. Et ça ne l'a pas empêché de faire faillite quand même. Donc, Voilà.
François Cattonet, il en parlait beaucoup avec vous de ses activités de doubleur. Pour lui, c'était quelque chose de complètement à part.
Oui, c'était des activités tellement différentes. Mais enfin, j'étais comme tout spectateur et je l'écoutais avec une grande gourmandise. Et je voulais juste ajouter une chose sur qui prouvait qu'il finançait ses films avec son travail de doublage, qui une fois il avait eu un contrôle des impôts, et le contrôle des impôts s'était très rapidement terminé parce que le contrôleur s'était aperçu que c'était l'acteur et l'individu Médondo qui payait les factures de la société Soleilio. Et donc, quand il avait vu ça, il lui avait dit « Mais personne ne fait jamais ça. Pourquoi vous faites ça ?» Et Med avait dit « Bah parce que sinon, je suis obligé de fermer ma société. Donc, je paye les factures de ma société. » Voilà, ça m'avait beaucoup amusé. Et j'ai jamais oublié cette anecdote.
Merci beaucoup, François Cattonet. Merci, Catherine Ruel.
Merci Elisabeth, c'était un très bon moment avec vous deux.
Mais c'est réciproque,
on se quitte. Avec tous ceux qui sont derrière, évidemment, dont Fanny.
On se quitte en musique avec la bande originale, la magnifique bande originale de Soleilio. Et puis on espère vous retrouver tous les deux bientôt pour parler de Médondo. Hein. C'est vrai qu'avec vous, on pourrait même faire un feuilleton Médondo.
Et, quand vous voulez,
Elisabeth. Il y aurait de quoi faire, François et Catherine. D'autant que la numérisation de West Indies et de Sarah Ounia, me dit-on, est en cours. Donc, avis au festival. Hein, on devrait voir les deux versions à l'horizon 2021. Tous mes remerciements à Maxime Grimbert, qui est le responsable de Cinéarchive à la Cinémathèque du Parti communiste, qui nous a permis de revoir tous ces films. Tous les cinémas du monde, c'est fini. Au micro, Elisabeth Le Guéret. À la réalisation, Fanny Renard. À la prise de son, Fabien Mugneret. C'était la dernière émission de la saison. Rendez-vous à la rentrée le 5 septembre avec la Mostra de Venise. Et d'ici là, je vous souhaite à tous un bel été.
Certains hommes s'en sont allés, Apollo, vers la lune chercher l'été. Apollo, ils ont défié le cosmos. Apollo, ils ont chanté sans écho. Apollo, laissant la terre sans misère. Je ne sais pour quelle raison, Apollo, ils ont tous tourné en rond. Apollo, voulait-il nous découvrir? Apollo, du diamant ou un saphir? Apollo, laissant la terre et sa misère. L'amour est là, qui nous ouvre les bras. Pourquoi partir sans pouvoir nous guérir? Vers l'immensité qui nous éblouit jour et nuit. Nous sommes tous